Donc Romains 10, les versets 9 jusqu'à 13, qui disent ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne serait pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le Juif et le Grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Michel?
Ça va bien ce matin? Vous savez, c'est un grand privilège de pouvoir enseigner Romains 10. C'est un chapitre extraordinaire, comme tous les chapitres de Romains d'ailleurs, on les aime tellement. Et vous savez que toute la semaine, j'ai travaillé fort à user mon parapluie. Puis, il est arrivé quelque chose. Et mon parapluie est presque même plus un parapluie. Je ne suis plus capable de l'ouvrir, je pense. J'ai la poignée ici. Alors, si je vous poserais la question, c'est-tu un parapluie, ça? Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose à mon parapluie? Hein? Il manque rien? Il manque la pluie? Qu'est-ce qui manque après ce parapluie-là? Alors, un parapluie, pas de poignée, c'est pas fameux. C'est comme l'Évangile. Quand il manque de quoi l'Évangile, c'est pas trop, trop utile. Il faut que l'Évangile soit clair, parce que dans le Romains 10, on est en train justement de parler de comment faire pour se présenter juste devant Dieu. Pour les Juifs, pour les non-Juifs, c'est quoi le plan de Dieu? Et l'apôtre ici va commencer cet énoncé et va nous dire, en fin de compte, écoutez bien, c'est un appel. Verset 9, c'est un appel. Paul appelle des Romains qu'il n'a jamais vus, qui écrit dans le premier siècle, les Romains qui ne sont pas juifs avec des Juifs et sont en train d'évangéliser. Il est en train de leur dire, on devient juste devant Dieu de la même manière, nous les non-juifs, que les juifs. Vous êtes tous appelés. C'est un appel, hein? On l'a lu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, peut-être nous un matin en 2011 au Cap de la Madeleine, confesser Jésus comme Seigneur, ça fait pas lever les cheveux dans les airs trop, hein? On est tellement habitués. Mais laissez-moi vous dire qu'au premier siècle, lorsque quelqu'un disait que Jésus est le maître et le Seigneur, il risquait de perdre son héritage si ses parents entendaient ça dans le milieu juif. Il risquait d'être même considéré comme mort, parce qu'il y a certaines familles qui faisaient même des funérailles pour ceux qui se convertissaient au Christ et déclaraient Jésus comme Seigneur. Pour les non-juifs, bien, il y avait César qui était Seigneur, et dire que Jésus est Seigneur, wow, il y a César. Alors, il y avait des menaces un peu partout, et déclarer Jésus-Christ comme le Maître, comme le Seigneur, c'était toute une déclaration. Et dans notre chapitre ici, c'est un chapitre qui nous emmène à réaliser, et c'est intéressant, dans l'Épître aux Romains, on voit le mot évangile pendant 11 fois. On voit ça dans 11 versets, c'est-à-dire. Et il y a un verset qui est nommé en double, mais il y a 12 fois, mais on voit 11 versets qui parlent de cela. Et dans notre section 9, 10 et 11, on voit l'évangile qui paraît une seule fois. Et c'est dans Romains 11, 28, vers la conclusion. Mais nous avons dans ces textes de Romains 10 ce matin, 9, 10, 11, 12, 13. Le cœur de l'Évangile. Avez-vous remarqué dans ces textes? Bouche, cœur. Bouche, cœur. Cœur, bouche. Cœur, bouche. Cœur, bouche. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si l'Évangile ne vise pas le cœur, l'Évangile n'est pas complet. Si l'Évangile ne fait que viser vos comportements, c'est-à-dire prendre un dimanche matin pour venir à l'Assemblée du Cap, et c'est ça l'Évangile pour vous, vous n'avez pas l'Évangile complet. Si l'Évangile pour vous, c'est avoir une bonne communion fraternelle, des amis, du social, c'est bien, mais l'Évangile n'est pas complet. Et on pourrait faire une liste longue comme le bras. Qu'est-ce que l'Évangile? À quoi ressemble l'Évangile? Et j'aimerais ce matin, lorsqu'on regarde cette confession de la bouche que Jésus est Seigneur, cette croyance qui, dans notre cœur, nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, on est sauvé. On a la vie éternelle. On a tout l'Évangile dans ce verset. C'est un appel à reconnaître Jésus-Christ comme Maître et Seigneur. C'est un appel à reconnaître la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Lui, juste la mort, ne pouvait pas le retenir. J'ai ramassé ici et là, et surtout dans le livre de Paul David Tripp puis Tim Lane, des traits de l'Évangile. Je les ai appelés, en fin de compte, sept caractéristiques de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile, en fin de compte? C'est un mot magique, ça, Évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Il y a une bonne nouvelle pour nous, les hommes. Il y a une bonne nouvelle pour nous, l'humanité. Il y a une bonne nouvelle pour nous, les enfants, les femmes. Il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle touche le cœur. Pas nécessairement juste le comportement, mais le cœur. Si le cœur n'est pas touché, le comportement est fauné. Vous jouez à l'église, vous faites semblant d'être chrétien, puis vous jouez du violon, et puis vous venez ici pour toutes sortes de raisons. Il faut que l'Évangile touche le cœur. Alors, posons-nous la question, à quoi ressemble l'Évangile complet, qui ne manque plus rien après? On a eu un ce matin avec Éric qui a parlé de la gloire de Dieu. L'Évangile est d'abord la gloire de Dieu. La glorieuse Évangile, si notre Évangile est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui périssent. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de quoi? De l'Évangile de Christ. Nous prêchons une personne. L'Évangile, c'est quelque chose qui touche le cœur, qui transforme des vies. Première chose que j'aimerais vous dire à propos de l'Évangile, ça commence par une mauvaise nouvelle. Le péché. L'étendue et la gravité de nos péchés. L'Évangile, c'est là. Genèse. L'homme a dit quoi à Dieu? Dieu, tasse-toi de là, je vais décider ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Et moi, je vais faire ce que je veux et ça finit là. Et l'homme a fait en sorte de se tricoter une vie anti-Dieu. Et de là viennent tous les maux. Vous savez, le mot péché est le mot le plus usé qu'il n'y a pas sur la planète Terre. Péché. Assez que certains livres nous disent, n'employez plus le mot péché lorsque vous évangélisez. Je me souviens au profil, Robert a mentionné tout à l'heure, au profil, je me souviens qu'il y a des gens, lorsqu'ils arrivaient à la question dans le profil du péché, partaient à rire, puis abandonnaient les questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire péché? Premièrement, ça veut dire manquer le but. On manque le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour la gloire de Dieu. On se révolte contre Dieu. On dit à Dieu, ce que tu dis, ça m'importe peu. Moi, je vis ma vie à ma manière. Il y a aussi le mot « être tordu » qu'on voit dans l'Ancien Testament en hébreu. C'est des gens qui disent « moi, je suis malicieux et tordu, mais je vais faire semblant d'être un bon gars, et puis je vais suivre les penchants de mon cœur. » Et le quatrième mot en hébreu qu'on voit du mot « péché », c'est un mot qui veut nous dire « être agité, inquiet, troublé ». Et si nous mettons ces quatre définitions ensemble, on a une des caractéristiques de l'Évangile. Dans l'Évangile, il y a l'homme manque le but pour lequel il a été créé, il se révolte contre son Créateur, il développe des relations tout croche et tordues, et ça fait une société, un cœur troublé et agité. Deuxième, dans le Nouveau Testament, on a les mêmes significations, manquer le but et transgresser dans le grec, qui veut dire la même chose. Alors, c'est important dans l'Évangile de savoir que l'homme est perdu, l'homme est pécheur, l'homme a de l'iniquité. Deuxième chose qui est importante, c'est de savoir que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est un cadeau immérité que la main de Dieu qui descend du ciel et vient chercher l'homme mal pris, incapable de sauver lui-même par ses religions qu'il invente, par ses œuvres méritoires, par sa philosophie, par sa politique. La grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui descend vers l'homme perdu, sans Dieu, sans espérance, qui ne mérite rien. Et si Dieu voudrait, il débrancherait l'univers comme on débranche une télévision. Et personne ne pourrait dire un mot. Mais Dieu a fait des promesses. Troisième caractéristique de l'Évangile, c'est la centralité du cœur. Qu'est-ce qu'est le cœur? Qu'est-ce qu'est le cœur? Le siège, le centre et le siège de la vie spirituelle. C'est la source et le siège de tous les désirs, envies, buts, efforts. C'est aussi la compréhension, la faculté et le siège de l'intelligence, de la volonté, du caractère. Le cœur de l'homme. Vous savez, on a des enveloppes. Puis on a pris soin un matin de bien s'envelopper. On s'habille d'une certaine manière. On sait où est-ce qu'on va. On n'est pas à la plage, on est à l'Assemblée. On n'est pas à la pêche. On est ici pour rencontrer Dieu, rencontrer nos frères, rencontrer les enfants de Dieu. On est ici et le cœur de l'homme se déguise aussi. Et on est bon pour déguiser notre cœur. Et quand on te demande « Comment ça va, matin? » Ça va bien? Ça va bien, matin? Puis dans le fond, ça va pas si bien que ça. On déguise notre cœur. On met un beau sourire. Un peu comme le Joker dans Batman. Un beau sourire. Mais le cœur, mes amis, où est le cœur dans cela? Où est notre cœur dans cela? Vous savez, Jésus est très, très spécifique à propos du cœur. Hein? Matthieu 15, 19, 20. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Ça vient tout de là. Cherchez pas, là. C'est pas à faute de votre voisin qui a acheté une plus belle auto que vous. C'est pas à faute de l'autre. Ça vient de notre cœur. La centralité du cœur est dans l'Évangile. L'Évangile vise le cœur. Et le Seigneur va dire ceci, « Voilà les choses qui souillent l'homme. » Reconnaissons que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur est une manufacture à produire les péchés. Et on l'a. Et nous qui avons accepté Christ, on a aussi le Saint-Esprit en nous, mais il faut reconnaître que le péché est là en nous. Nous sommes de ceux qui produisons ces choses-là. Levez la main ceux qui ont eu de mauvaises pensées ce matin. Parce que vous êtes tous en train de regarder adultère, débauché, voleur. Levez la main ceux qui n'ont pas calomnié, qui n'ont pas fait de médisance. Levez pas la main, c'est rhétorique. C'est juste pour faire réfléchir. Réfléchissons un peu notre cœur. Mal à l'aise, hein? On peut parler de la mode, on peut parler de la température, on parle de la pluie énormément. Mais le Seigneur est très, 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 très clair, spécifique. Et l'Évangile parle de cela, mes amis. Allez pas témoigner quelqu'un en lui faisant croire que c'est un bon gars. Puis c'est vrai qu'il a raison, c'est une victime des autres. Ou c'est la faute de sa mère qui n'a pas acheté son petit bicycle rouge quand il était jeune, c'est pour ça qu'il a volé le char rouge, le plus vieux. Embarquez pas dans ça. La Bible est claire, le cœur de l'homme. Jonathan Edwards dit ceci, écoutez bien, puis je vous dis là, moi c'est une citation que je dis souvent à Denis, moi je l'aime cette citation-là, je l'ai eu dans le cours avec Mathieu Caron. Un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. Réfléchissons un petit peu avec ça. Le désir du moment donné. Moi, j'ai saisi d'une manière réelle. Je me suis toujours posé, Michel, comment se fait ça que tu aimes le Seigneur? Je ne parlerai pas de moi, mais puis je fais encore des péchés. Pense à ça. Comment se fait ça qu'on fait encore des péchés? Le cœur de l'homme, les influences du cœur. On est influencé par toutes sortes de choses alentour de nous qu'on n'a pas le temps de regarder ensemble. Mais il y a toutes sortes de choses qui nous influencent. Puis le désir du moment donné nous font faire et dire des choses que normalement on ne ferait pas. Avez-vous remarqué ça? Souvent, ça arrive dans la surprise. La fille se trompe en vous donnant le change au magasin. Tu ne dis pas un mot, tu le mets dans tes poches, tu t'en vas, puis tu fais semblant que tu ne l'as pas vu. Ah, tu regardes ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, tu commences à calomnier et à médire contre quelqu'un à l'Assemblée, puis après, en dernier, tu dis, oh, t'as peu, on va prier pour elle ou pour lui. Voyez-vous, le désir du moment donné explique, vous pouvez connaître votre Bible par cœur, vous pouvez avoir 30, ça fait longtemps, vous pouvez avoir 40 ans dans le Seigneur, puis faire encore des péchés. Le désir du moment donné. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est une guerre spirituelle qu'on vit. Très important. Pensez-y, le désir du moment. Mais comment se fait ça? Je le sais que c'est pas correct. Je le sais que c'est péché. Je le sais que j'offense Dieu premièrement par mon péché. Puis je détruis ceux que j'aime alentour de moi. Puis je le fais pareil. Pourquoi? Les influences du cœur, le désir du moment donné. Ce que tu fais me dit ce que tu aimes. Moi, j'aime bien ça. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mes amis, ça ne trompe pas. Dites-moi, est-ce que vous mettez votre argent, vos énergies, votre temps, vos préoccupations, mais on vous dit ce que vous aimez le plus. C'est comme ça. C'est plate de même, hein? C'est une question de gérer nos énergies, puis notre temps, puis l'argent, puis nos capacités. C'est le cœur. Voyez-vous, notre corps peut être assis ici ce matin, puis notre cœur peut être où? Chez McDonald's? À la TV? Voyez-vous, le cœur, c'est central à l'Évangile. Nous visons le cœur. C'est pour cela que lorsqu'on témoigne, puis la personne dit quelque chose qui n'a pas d'allure, et puis que ce n'est pas biblique pantoute, puis on va le tasser à côté pour revenir plus tard, parce qu'on vise le cœur en premier. La quatrième, ici, on voit les bénéfices actuels de Christ dans notre vie. Savez-vous pourquoi c'est des bénéfices? Or, celui, hein? Or, c'est par lui que vous avez été fait en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Regardez bien, les bénéfices d'être en Jésus-Christ. C'est l'Évangile, ça. C'est quoi? Sagesse. Ah! Vous avez un discernement spirituel, une sagesse spirituelle. Christ a été fait sagesse pour nous. Qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Justice. Je n'ai plus besoin de tricoter des religions ou faire des bonnes œuvres pour être juste devant Dieu. Christ a été fait pour moi en justice. Sanctification, mise à part pour Dieu. Christ m'a mis à part pour lui. Il a été fait pour moi rédemption. Il m'a racheté complètement de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes pères. Voyez-vous, Christ a été fait pour nous. C'est bénéfique. Et la cinquième trait que j'aimerais mentionner ici, c'est l'appel de Dieu à la croissance et au changement. Ça fait aussi partie de l'Évangile. Si on décrit l'Évangile, l'Évangile transforme des vies. Pourquoi? Parce qu'on devient des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, l'Évangile transforme la vie des gens. C'est important, ça. C'est pas l'Évangile me sauve de l'enfer seulement, c'est vrai. Mais l'Évangile transforme votre vie maintenant. La transformation ne commence pas lorsque vous allez mourir. La transformation commence lorsque vous êtes né de nouveau. C'est ça, l'Évangile. Un Évangile puissant qui transforme les vies parce qu'on est des nouvelles créations en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas facile, ça. Parce que ça part de notre cheminement. Ça part de notre combat spirituel. Ça part de prendre des bons choix, de voir clair selon Dieu, de laisser le Seigneur me guider dans mes choix, de demander de la sagesse au Seigneur, de peut-être demander de la sagesse à des frères et des sœurs plus matures que moi ou qui ont vécu des choses comme moi. Alors, j'ai besoin, moi, de savoir que je suis en transformation. Nous tous, donc, le visage découvert, 2 Corinthiens 3, 18 nous dit cela, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Avoir marqué, ce n'est pas un zapping tout d'un coup, c'est de gloire en gloire à l'Esprit du Seigneur. Tranquillement par tranquillement, un pas à la fois. Et on voit aussi le même enseignement qu'on voit dans Éphésiens 1, 4. Hein, on reste frères puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là qu'il fait quoi? C'est là que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. Comment? De progrès en progrès. Alors, l'appel de Dieu au changement, ça fait partie de l'Évangile. Cette glorieuse évangile qui touche le cœur, qui fait parler la bouche. Sixième aspect de l'évangile, c'est que oui, on est dans un combat spirituel et la vie de repentance et de foi fait partie de l'évangile. Non? Êtes-vous surpris quand vous faites un péché? Ah ben, regarde-moi dans ça, je viens de faire un péché, je suis donc surpris. Pas surpris pendant tout, moi. Je suis horrifié, pas surpris. Mais c'est ça. Ça fait partie de l'Évangile. L'Évangile glorieuse. 1 Jean nous dit ceci, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et le verset 9 va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il y a le mécanisme de pardon dans la Bible. Le verset 10 dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous, là, le faisons Dieu, quoi? Menteur, et sa parole n'est point en nous. » Voyez-vous, à quelque part, il faut accepter que la vie chrétienne est une vie où on se repent. Lorsqu'on vient au Seigneur une fois, puis on continue à se repentir tout le temps. Parce qu'on pêche en pleine lumière, parce qu'on marche dans la lumière, on est en pleine lumière. On sait quoi faire avec les péchés maintenant. Ça fait partie de la glorieuse évangile qui touche le cœur, qui fait parler la bouche, qui transforme la vie. Rêvons pas en couleur, mes amis. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas lire Matthieu 7, mais je vous le cite brièvement. Attention. Les seigneurs à gauche, les seigneurs à droite. Le Seigneur va dire à ces gens-là, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez fait des miracles en mon nom, ils vont lui dire quoi? Retirez-vous de moi, je ne vous connais même pas. C'est une fausse évangile qui n'a pas touché le cœur, qui a touché le comportement. Et la septième, c'est l'immortalité dans l'éternité avec Dieu. Je ne savais pas comment mettre ça en dernier, là. C'est la glorieuse évangile. C'est quoi ça? Après avoir été élevé à la perfection, Jésus, il a été devenu pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent. Et je l'ai souligné, pas pour rien, obéissent. Vous avez remarqué, des fois, là, on distance la croyance de l'obéissance tellement, là. On dirait que je crois ici, mais l'obéissance est deux rues plus bas. Dans la Bible, ça n'existe pas, ça. L'obéissance et croire est ensemble. Parce que c'est tellement utilisé. Oui, je crois, j'ai la foi, je crois. Puis on dirait que, oui, mais je vais obéir comme dans 2-3 ans, là, je me décide, puis je vais trouver une fille, puis, ou un gars, puis une bonne job, puis une maison, puis là, on va commencer à obéir à Dieu. Le Seigneur nous donne est l'auteur d'un salut éternel. Seigneur Jésus, que seul lui possède l'immortalité dans l'éternité, la glorieuse évangile est là pour nous rappeler qu'il y a une perspective de pèlerin et voyageur sur cette terre. Est-ce que vous vous préparez à mourir? Avez-vous déjà pensé ça, que vous allez mourir un jour? Pour avoir accompagné des gens dans les soins intensifs, je vous dis qu'on a des choses à dire. Les 30 minutes avant qu'on meure, quand on a conscience. L'Évangile nous parle de l'éternité glorieuse. Et ça nous fait lever les yeux vers le ciel. Plutôt qu'à regarder ce qui se passe au Walmart, puis Costco, puis un peu partout. Une perspective éternelle, la glorieuse évangile. L'apôtre Paul, regardez bien, je les ai tout mis là. À quelque part, lorsqu'on regarde cela, là, je me dis à moi-même, Michel, est-ce que la glorieuse évangile de notre Seigneur Jésus-Christ a touché ton cœur? Puis je vous pose la question ce matin. Est-ce que ça a vraiment touché votre cœur, l'Évangile? D'une manière radicale? Ou que vous ne parlez plus de la même manière? Vous n'avez plus les mêmes priorités? Vous n'avez plus le même langage? Vous êtes pour certaines personnes un extraterrestre qui vient d'une autre planète? Est-ce que cette sorte d'Évangile a touché mon cœur? Ou j'aimerais prendre un que le point 1, 2, 3, là, puis ça, c'est pas encore là, 3, je ne veux pas trop les toucher. Bonne question que je me suis posée. Parce que l'apôtre Paul, dans le chapitre 10, c'est la question qu'il dit, qu'il pose, qu'il appelle les premiers lecteurs qu'il n'a jamais vus. Il les appelle à cette sorte d'évangile qui touche le cœur, puis qui fait parler la bouche. Dans l'ordre rédemptrice, parce que c'est en envers le verset 10, avez-vous remarqué? Le verset 9 est d'une manière, puis le verset 10 est en envers. C'est l'ordre rédemptrice, regardez bien, théologique. Car c'est en croyant du cœur. Avez-vous remarqué? C'est plus l'appel, là, c'est le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est pas en venant à chapelle à tous les dimanches matins. C'est même pas en se faisant baptiser. C'est un pas d'obéissance, mais c'est pas ça. C'est en croyant du cœur. Et quand que le cœur est touché, la vie est transformée. C'est ça l'Évangile. Pas l'Évangile à l'eau de vaisselle. Pas l'Évangile de prospérité. Pas l'Évangile déguisé. Mais l'Évangile qui touche le cœur. qui déclare Jésus comme maître, qui a la seigneurie de nos vies, de ma vie. Et n'oublions pas celui qui est en train d'écrire ça dans le chapitre 9 de Romains. Souvenez-vous, la première question qu'il a posée, c'est « Qui es-tu, Seigneur? » Quelle sorte de Seigneur est le Seigneur de nos vies? Fini la confusion pour ceux qui croient. Dans le verset 11, il dit « Arrêtez, là! » Vous, là, les qui est dans le judaïsme, vous qui adorez César, vous qui êtes dans toutes sortes d'écoles de pensée, arrêtez, là, qu'il n'y ait plus de confusion, là. Il n'y a rien qu'un chemin, il y a juste une chose, c'est fini la confusion. C'est Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est tellement épeurant de dire ça, là, un matin, en 2011, là, c'est parce que j'ai lu pas mal l'histoire, puis si vous verrez, la portée de cette déclaration-là, là. Quelqu'un qui disait ça, là, Jésus-Christ est Seigneur, là, il perdait tout. Il risquait de perdre tout. Fini la confusion. Fini. Selon qu'il est dit dans l'Écriture, quiconque croit en lui, ça ne sera point confus, car, Isaïe l'avait prophétisé d'ailleurs, c'est par l'Éternel qu'Isaïe obtient le salut, qu'Israël obtient le salut, excusez, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. C'est fini la confusion. Il n'y a pas 50 chemins, 50 manières. C'est juste l'Évangile qui touche le cœur, qui transforme radicalement la personne, il fait parler sa bouche pour la seigneurie de Christ dans sa vie. L'apôtre Pierre disait ceci dans 1 Pierre 2,6, « Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » C'est important cela. Vous savez, mes amis, Pierre va nous dire ceci dans 4,11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, est devenue la principale de l'angle. » Et c'est cela que Paul, dans Romains 10, est en train de dire aux Juifs et aux non-Juifs que Jésus, c'est celui qui est la principale personne, et c'est lui qui donne et coordonne l'Évangile puissant qui sauve la vie jusque dans l'éternité. J'ai trouvé ça sur Internet, une pierre angulaire. Je cherchais pierre angulaire. C'est beau, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes priorités de ma vie, je donne la seigneurie de Christ dans ma vie, la priorité de ma vie va être alignée sur la croix pour avoir une construction de ma vie qui est droite aux yeux de Dieu. Cette pierre angulaire était dans l'histoire, cette pierre à laquelle on prenait pour tout mesurer les côtés des murs, pour prendre les largeurs, les hauteurs, les profondeurs, etc. C'était la principale, c'est elle qui partait le bâtiment comme il faut. Et c'est ce qu'est Jésus. Et l'Évangile qui touche le cœur fait en sorte que le Seigneur devient cette pierre angulaire pour chacun de nous et nous construisons nos vies. Et je voulais mettre toutes sortes de choses après les briques, je n'ai pas eu le temps. Mais on aurait pu mettre après ces briques-là mon argent, mes priorités, ma manière de parler, ma manière d'agir, de réagir. Maintenant là, que je suis avec le Seigneur, maintenant que l'Évangile me transforme, je veux ressembler au Seigneur de plus en plus. Et c'est ça l'Évangile. Un Évangile qui touche mon cœur et qui fait parler ma bouche. Un Évangile puissant, qui transforme nos vies. Ce matin, j'aimerais ça que Will vienne. On va terminer par un cantique, si vous voulez. Dans 10:13, il est écrit ceci, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est intéressant, c'est un verbe qui est moyen. C'est un aoriste, c'est-à-dire c'est un temps passé, il n'y a pas d'équivalent en français ni en anglais. Et subjonctif aussi, ce verbe-là, « invoquer le Seigneur ». Quand est-ce que vous avez invoqué le Seigneur comme le Seigneur de votre vie? C'est quand la dernière fois? Puis je vous offre l'occasion de le faire ce matin rapidement, mais solennellement. Je vais demander de vous lever debout, on va chanter. Ce que je crois qui est mon plus grand combat pour moi, c'est peut-être votre combat aussi, c'est mon cœur.
Change mon cœur. Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis. Prise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois.
Devant toi. Seigneur, nous voulons te donner, Seigneur Dieu, notre cœur. Toutes ces influences que nous avons qui te déplaisent, Seigneur, toutes ces influences qui nous font faire des choses que dans le fond on ne veut pas faire, mais on le fait pareil. Seigneur Dieu, cet esclavage que nous avons délaissé du péché, maintenant nous sommes esclaves de la justice en Jésus-Christ et nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner dans ta grâce la force de marcher pour toi. Que cet évangile soit présent dans nos vies. Cet glorieux évangile que nous avons accepté. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur de nos vies. Et nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.